Rencontre avec. Le mot rencontre se définit curieusement par rencontrer quelqu'un ou quelque chose, de manière fortuite ou non, sur son chemin. Comme si le mot rencontre se définissait par rencontre. J'ai rencontré Mehdi Sharef en 2018 grâce à Michel Ray Gavras, la compagne de Costa Gavras. J'avais contacté Michel Ray Gavras en tant que productrice pour faire venir Costa Gavras en avril 2018 présider le festival européen Erasmus+, SAFTAS, que nous avions organisé au lycée Estournel de Constant et avec l'aide de la ville de La Flèche, qui nous offrait son cinéma et ses salles de théâtre. Costa Gavras n'était pas très disponible, mais les éditions du Seuil avaient bien voulu nous le prêter une journée pour qu'il puisse venir signer son autobiographie « Va où il est impossible d'aller ». Michel Ray Gavras propose que Mehdi Sharef vienne 3 jours et co-préside le festival avec Isabelle Ingold, dont je reparlerai. À ma grande honte, je ne connaissais pas Mehdi Sharef. Alors je l'ai lu et j'ai demandé à mes parents de visionner ses films pour en choisir un et le montrer en sa présence au festival. Mes parents le connaissaient et ils ont découvert certains de ses films. Ils m'ont recommandé « Les cartouches gauloises », sorti au cinéma en 2006. En voici le synopsis. Le dernier printemps de la guerre d'Algérie. Le printemps d'avant l'été de l'indépendance. Ali, 11 ans, et son meilleur copain Nico regardent leur monde changer et font semblant de croire que Nico ne partira jamais. Jamais ?
Reste !
Vas-y pas, David. La France, il fait froid et les gens, ils sont toujours tristes.
Je me souviens de l'émotion de tous les adolescents dans la salle, y compris de nos collègues européens. Katharina, une collègue grecque, a exprimé pour nous tous en anglais l'émotion qui nous étreignait et en particulier, elle ressentait vivement les enfants français dans la salle. Quand je vois Mehdi Sharef pour la première fois, je pense à un oiseau blessé, mais d'une blessure étrange, venue de l'enfance, toujours ouverte et vive, comme celle de mon père. Même si mon père se donne l'allure d'une statue grecque, je reconnais la même blessure, celle des enfants dont la société ne veut pas. Je me souviens d'une scène à la gare du Mans dont j'ai honte, parce que je n'ai rien dit. Était-ce à son arrivée ou à son départ ? Mehdi Sharef est sur le quai de la gare, il sort une cigarette. Un homme chargé de la sécurité s'approche de lui. Il ne fait pas que lui demander d'éteindre sa cigarette, il lui demande ses papiers. Mehdi Sharef le regarde longuement, il se penche à son oreille et il lui parle doucement. L'homme fait demi-tour. Je pense aux nombreuses fois où, à Paris, pendant mon adolescence, mon amie Véronique, métisse, est arrêtée dans la rue, et pas moi, la blonde à la peau translucide. Je crois que j'en ai parlé avec Mehdi Sharef de cette violence subie chaque jour par les enfants racialisés par le regard de l'autre. Je ne me souviens pas de ce qu'il répond. Je ris, je lui dis « Moi, c'est mon nom seulement qui me rend étrangère, et mon père, Jean Veille, déporté. » Mehdi Sharef est un homme qui écoute beaucoup et qui observe. Je comprends ses liens de fraternité avec Costa Gavras. Il me parle de Michel Ray Gavras, qui les gère tous les deux, les hommes rêveurs qui réalisent leurs rêves grâce à elle. Est-ce sur le chemin du retour, entre La Flèche et Le Mans, qu'il me confie qu'il a recommencé à écrire, que des éditrices, c'est ce que mon souvenir restitue, sont venues lui demander de se remettre à écrire? Il n'a pas pu refuser. Il dit qu'il croit que c'est ce qu'il a écrit de mieux, mais qu'écrire sur son enfance remue beaucoup de chagrin, que c'est difficile, qu'il est content d'avoir vu des adolescents heureux, soutenus par des adultes dévoués. Oui, je crois qu'il dit un mot comme cela, des adultes dévoués. Alors, quand paraît rue des Pâquerettes, je suis d'autant plus émue que la première figure est un instituteur qui transmet à ses enfants et à Mehdi le goût de la lecture et de la révolte. Dans la classe de rattrapage de M. Raffin, on fait attendre les enfants dont on n'a plus aucun espoir qu'ils se réinsèrent dans une scolarité normale. Moi, j'y vais parce que je n'ai eu qu'une année d'école en Algérie et j'avais déjà 10 ans en arrivant en France. Je réapprends à lire et à écrire. Nous sommes une dizaine comme ça, des immigrés. Les autres, il y en a 14, sont d'ici et plus âgés que moi. Ils ont des soucis chez eux qu'ils traînent partout où ils vont. Le maître leur répète, quand il est en colère, de les oublier en entrant dans la classe. La figure du maître revient plusieurs fois dans le roman. Il y a aussi l'épisode des Misérables. À la fin de chaque journée, notre maître nous lit quelques pages des Misérables de Victor Hugo, ce que j'attends avec impatience. Il troque alors la voix que nous connaissons contre une autre plus mélodieuse, traînante, suave. Je n'ai pas l'impression qu'il nous lit un livre, mais qu'il me parle à moi, que l'histoire de Jean Valjean, c'est à moi qu'il la raconte. Au début, il avait choisi de nous lire Les Trois Mousquetaires, mais il a été vite déçu. On ne réagissait pas, ni rire, ni souffle d'exaspération, ni geste de mauvaise humeur. Il nous a fixés, les uns après les autres, de son regard vitreux. Quand ça a été mon tour, j'ai baissé la tête, puis il a claqué des doigts. « Les Trois Mousquetaires ? C'est pour ça que cette histoire vous gonfle ? Sont à votre avis trois gros cons de flics ou trois gros crétins de gendarmes qui se battent pour défendre l'honneur et la fortune d'un roi et les bijoux d'une salope de reine contre des voleurs, des lascars, des misérables ?» Je n'ai rien dit. Notre maître s'est dressé sur sa chaise pour observer le fond de la classe. Les autres n'ont pas répondu non plus. Il a éclaté de rire, s'est frotté les mains, a répété « Les misérables ! Les misérables !» Puis, d'un coup, « J'ai raison, n'est-ce pas ? N'est-ce pas que deux d'entre vous ont leur père en prison ? Qui est de ceux-là, hein ? Alban, c'est ton père qui est à la santé, n'est-ce pas ? Et l'autre, c'est le tien, Rémi ?» Je ne les ai pas cherchés des yeux comme les autres élèves qui se sont tournés vers eux, cette putain de pudeur héritée de ma montagne. Vous êtes d'un milieu où les mousquetaires, c'est pas votre tasse de thé ? En me regardant, il a dit, content de lui, « Ni de thé à la menthe !» Il n'y a que lui qui rit quand il faut rire. Nous, on n'ose pas, par peur d'être puni. Moi, je le pourrais, je n'ai rien d'autre à me reprocher que d'avoir été inscrit tard à l'école. Chez les autres, il y a l'alcool, la violence à la maison, la mère seule, le père, on ne sait où. Je dois être plus facile à rattraper. Je jette à la poubelle Alexandre Dumas et ses lèche-bottes de mousquetaire. Et à nous, Victor Hugo, à moi les misérables !» Il m'a semblé qu'avec ce mot, il nous appelait, mais on est resté assis. Encore plus loin, presque à la fin du récit, le maître dit « Quand vous admirez un beau tableau d'un grand peintre, que vous restez en extase devant, c'est vous qui l'a conquis, vous vous l'êtes approprié. Il devient à vous, vous le possédez. C'est pareil avec un beau livre. Il vous attend plus qu'après avoir fini de le lire, vous vous remémorez les plus beaux extraits. Vous vous les relisez, ils deviennent à vous, vous les possédez. Le tableau, le livre, ces deux belles œuvres sont à jamais gravées en vous. Leur beauté se reflète en vous, vous la portez comme un don, une richesse. C'est cela la possession. Vous êtes riche. » Mais il y a aussi l'arrivée en France, un jour de novembre. Paris, la France, nous y sommes. Sans novembre au-dessus de nos yeux, la capitale aurait pu être belle. Les gens se dépêchent, les voitures klaxonnent, les cinémas laissent rêveurs et il y a des Français partout, partout. Des femmes françaises, des hommes français. Pour moi qui en avais peur en Algérie, qui les craignais parce qu'ils en avaient fait leur pays, j'étais de ces enfants que leur présence écrasait, que leur emprise isolait. Colonisé, on est indigène. Va te soulager de cette putain de peau. et je resterai toujours l'indigène de quelqu'un, parce que, toute sa vie, le colonisé garde le colon dans sa tête. » Et puis, plus loin, il arrive aux Marguerites. Nous continuons à marcher, notre père devant qui ne doit pas être à l'aise. Nous passons par une dernière cité, avec deux tours et deux bars. Nous entrons dans ces allées, attendons que mon père pose enfin sa valise, qu'il se dirige vers un de ses porches. Personne ne parle. Moi, qu'on dit toujours plus intelligent que les autres, je commence à avoir des doutes. Il n'y a plus aucun immeuble devant nous. On continue à marcher, et au loin, comme sur un plat pays, se dresse soudain un village fantôme, aux murs bas, tout en planches de bois sombre. La fumée des cheminées a été la première chose à nous atteindre. Elle est dégueulasse, dense, noire, par des tuyaux piqués sur des toits penchés. À mesure que nous approchons de ce village, de ces maisons ensevelies, de biais, je me sens anxieux. Des enfants courent dans les allées, ils jouent, rient, les pieds dans la boue. Nous entrons dans ce chaos de baraques. L'arrivée en France en novembre. Novembre, c'est le secret de l'autre livre, l'autre enfance, que renferme rue des Pâquerettes, l'autre nom de Marguerite. Il arriva chez nous un dimanche de novembre. Je commence toujours par lire cette phrase, la toute première, avant de reprendre la lecture à la fin du chapitre, où j'avais refermé les pages. Je ne lis que dans la bibliothèque, je n'emporte jamais le livre dans la baraque. J'ai peur de l'abîmer. Moi aussi, je suis arrivée ici, au bidonville de la rue des Pâquerettes, à Nanterre, en France, par un matin de novembre. Il arriva chez nous un dimanche de novembre. Cette phrase, à chaque fois, elle me fait chialer. Ceux qui ne savent pas d'où je la tiens, il leur manque un livre. Après cette lecture, j'hésite alors à écrire à Mehdi Charef pour lui dire combien son texte m'émeut, me bouleverse. Mais je n'ai pas les mots pour dire autre chose que merci. Je suis intimidée. Je crains que mon admiration me donne l'air stupide. Je me souviens encore que, sur le quai, avant de le quitter en avril 2018, je lui offre les écrits de mon père que nous venons de publier à l'occasion de la remise de la Légion d'honneur en 2016. Écrits sur la guerre et la déportation. Je me souviens que Mehdi Charef m'écrit un mois plus tard un mot bouleversant. Et puis les années passent. J'ai tendance à croire que ceux que j'aime sont immortels, surtout mon père. Jean Veil décède brutalement d'une crise cardiaque le 20 janvier 2021. Alors qu'il est debout. Il ne tombe pas, il reste comme statufié, debout. C'est ma mère qui le fait asseoir. En décembre 2021, je lis La cité de mon père, la troisième œuvre de Mehdi Charef sur l'enfance, l'exil et sur le fantôme de sa sœur. Écrire, oui, écrire, l'idéal. Une aventure au-dessus de nos moyens, preuve qu'il faut être plusieurs pour la vivre, l'accomplir. Si je baisse les bras, ma sœur apparaît comme une étoile au ciel et me porte, me flanque un coup de pied au cul. Et quand j'aurai accompli mon devoir, réalisé l'exploit, à un certain âge, on me demandera comment, vu d'où je viens, j'ai pu aller au bout de mon histoire. J'éclaterai de rire et je n'avouerai pas. Il n'y a pas de raison qu'après ta mort, dans ton élan éternel, tu ne me sois plus utile. Je ne voyais pas l'enfant que j'étais arrivant en France à 10 ans, vivre sans se rêver un univers, le sien, tant il avait peur de celui des autres, tant il s'y sentait abandonné. Mon pays, je venais de le perdre. C'était comme s'il ne voulait plus de moi, comme s'il me laissait partir sans aucun geste pour me retenir. À un moment, je ne l'ai plus aimé, et j'ai su que je n'y reviendrais pas. Les autres étaient sur leur terre, chez eux. Moi, c'est devenu plus vaste. Je n'avais plus de frontières. La terre entière était à moi. Je suis devenu un exilé. J'ai épousé l'identité d'errant. Je n'étais pas attendu, pas envisagé dans le pays où je débarquais, et je venais d'être renié par le mien. Alors j'ai choisi, accepter l'exil, et mon univers, écrire. À la fin de la lecture de La cité de mon père, Je recherche, dans la mémoire de mes mails, les mots de Mehdi Sharef sur les écrits de mon père, et je les retrouve, qui attendaient sagement une nouvelle lecture. Merci Sandrine de m'avoir fait découvrir le livre de Jean. J'ai passé un très bon moment avec lui, un peu court, comme si nous étions tous les deux debout, lui et moi, parce que Jean écrit debout, et c'est dans cette position que j'imagine qu'il a vécu toute sa vie. C'est fatigant, épuisant, mais il ne pouvait en être autrement. Pour lui, il voulait la vivre, la vie, parce qu'on l'a prise à des tas de gens qui lui étaient chers, qu'il aimait, qu'il la vivait plusieurs fois, d'un même moment. Merci Sandrine. C'est moi qui te remercie, Mehdi Sharef. Je remercie Maxime Chevreau pour sa magnifique musique.